Bah écoutez, en tout cas, merci et bonjour. Moi, ma formation est une formation, je ne suis qu'un pauvre littéraire, comme dirait l'autre, mais j'ai pour coutume de dire à mes étudiants au début, ne crachez pas dans la soupe, vos formations sont les meilleures. Et l'industrie est en train de se rendre compte que la formation de littéraire est une formation extrêmement importante pour elle. C'est une nouveauté, c'est pas encore pris, je crois que c'est pas encore passé dans les mœurs, mais parce que nous sommes formés à travailler sur la complexité. Donc c'est quelque chose de particulièrement important. Et puis, c'est vrai que se retrouver en tant que spécialiste de Queneau devant des outils qui sont des outils dits d'écriture numérique en fait sourire encore quelques-uns. Ma foi, laissons-les sourire. Je pense que nous avons une certaine aptitude à pouvoir les comprendre pour une raison toute bête, comme je vais essayer de vous le faire voir, c'est que ces outils sont précisément des outils d'écriture et de lecture. Et donc, je crois que les gens qui sont les mieux formés, à la fois pour les comprendre et pour pouvoir les accompagner, sont précisément ceux qui ont travaillé sur l'écriture et la lecture. Et il va falloir que nous continuions à défendre les formations de lettres. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ça fait du bien. En même temps, cette année, on a ouvert un cursus transverse entre l'UFM de Paris et le CELSA. Pour des raisons, c'est pas enregistré. Là. Si. Tant pis. Aucune raison. Pour des raisons politiques, toutes bêtes, de défense. D'accord. Alors, le début, vous pouvez le chanter, c'est préférable, parce que je sais que ça va faire grincer des dents à un moment ou à un autre. Simplement, effectivement, moi, j'ai donné mon accord et je suis monté au créneau pour que nous ayons effectivement une formation transverse entre l'UFM et le CELSA, pour des raisons toutes simples. C'est qu'il fallait mettre le pied entre la porte qui était en train de se refermer, de façon à ce que la formation UFM Paris ne soit pas close, ce qui était une folie totale. Et nous sommes dans une situation politique qui est extraordinairement compliquée, inquiétante. Donc je pense qu'à tous les niveaux, nous avons un droit de résistance absolu. Et donc je pense que c'était bien, sain. C'est du boulot en plus, mais quel régal aussi de travailler à l'UFM en même temps. Donc il faut assumer aussi les deux aspects de la chose. Je crois que c'est important parce que, oui, on est dans une situation qui est complexe et que je vois les étudiants de l'UFM sont extraordinairement demandeurs. Ils sont motivés, ils ont envie d'avancer. Donc c'est bien d'avoir des étudiants comme ça, c'est extrêmement satisfaisant. Voilà. Donc en fait, mes axes se situent effectivement à la croisée d'une tradition littéraire, sémiologique, histoire des supports, histoire de l'écriture. Entre-temps, à cause du frère de Claude, Yves, donc, avec qui je continue de travailler depuis une petite vingtaine d'années, on a écrit ensemble une quantité assez phénoménale d'articles communs. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien de qui sont les idées principales, mais ce n'est pas franchement un gros problème. Je suis resté assez longtemps dans une école d'ingénieurs entre-temps, l'ENST, ce qui fait que j'ai vu de l'intérieur comment se concevait un certain nombre de choses. Et du coup, on est à l'origine d'un certain nombre d'axes théoriques et méthodologiques d'analyse de ce que j'ai appelé les écrits d'écran. Les écrits d'écran, les écrits de réseau, etc. Et donc on a un certain nombre de propositions théoriques collectives, je dirais, parce que le travail d'équipe de recherche est nécessairement un travail collectif. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est non pas entrer de façon pointilliste sur un type d'analyse que l'on pourrait faire, ce que je ferai éventuellement à la fin s'il nous reste du temps. Je ne suis pas bien sûr, parce que j'ai vu que j'étais très très optimiste sur la quantité de choses que je vous ai apportées, mais on verra. On tranchera dans le vif au moment voulu. Ce que je voulais, c'était prendre une focale un peu plus lointaine et puis vous proposer un regard qui soit un regard à la fois inscrit dans l'histoire longue et puis un regard de compréhension des dispositifs au sein même de la pratique d'écriture et de lecture et au sein de l'histoire des outils. Alors, je vais me référer à des auteurs que j'apprécie particulièrement. Mon premier geste est un geste de situation de la préhistoire à nos jours. Donc, en arrière-plan, il y a le roi Gourand avec cet admirable ouvrage que je ne peux que vous recommander de lire, qui est Le geste et la parole en deux volumes. C'est quelque chose qui, c'est une entrée magnifique pour les questions que nous posons. Alors, bien sûr, à la fin, ça mérite d'être vu, mais c'est pas du tout gênant. Il fait partie des intellectuels qui nous ont tracé des voies, de très grandes voies, qui sont extraordinairement valides. Derrière, Mauss, le roi Gourand, Bertrand Gille sur l'histoire des sciences, Simondon aussi pour l'histoire des sciences. Et puis après, bon, moi je vous les citerai au passage. Donc mon premier temps, c'est effectivement ce temps de situation. Ce que je vous propose, c'est une histoire des outils, enfin la situation, par exemple, des outils que nous utilisons dans une histoire des outils, donc vaste. Puis la nécessité que nous avons de qualifier ces outils d'outils de communication. Et puis, dans un troisième temps, de voir que ces outils de communication ont ce site particulier, que ce sont des outils d'écriture-lecture, ce que j'ai appelé lors du colloque, que j'avais appelé dans un article, mais lors du colloque à la BNF que nous avons fait la semaine dernière, qui entre dans la logique de ce que je disais à propos de l'IUFM tout à l'heure, qui entre dans la logique d'association entre la Bibliothèque nationale de France, d'une part la Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère et donc la direction de l'inspection des lettres, et notre laboratoire dont j'ai la responsabilité, qui est le GRIPIC au CELSA, c'était le groupe de recherche, quand j'arrive à le dire d'une manière, groupe de recherche interdisciplinaire des processus d'information et de communication. On ne pouvait pas faire plus grattant comme titre. J'en suis pas l'auteur, hein. Bon, mais il existe, donc il faut s'inscrire dans l'histoire collective aussi. Et donc, en fait, le colloque que nous avons fait la semaine dernière de l'histoire de l'écriture aux écrits, enfin, en fait, le livre au risque du numérique, en fait, hein, de l'histoire des écritures. Je me rappelle plus du titre, c'est fou, ça. Merci. Les métamorphoses de la lecture à l'heure du numérique, qui a été en fait une négociation assez rigolote à partir des titres de Christian Jacob, autre auteur que je ne peux que vous inviter à lire. Christian Jacob ayant travaillé de manière extraordinairement fine et pointue sur la question de la carte, notamment, où il a écrit un très très bel article, qui s'appelle « Les navigations alexandrines » dans un collectif sur... je ne me souviens pas du titre exact, mais qui est paru chez Albin Michel il y a une petite dizaine d'années à peine, avec Marc Baratin, donc et Christian Jacob, sur les navigations alexandrines. Ce qu'il explique, c'est quelle est la dimension historique de la classification et de l'élaboration de la culture hellénistique, et comment en fait elle impacte, pour prendre ce mot abominable du marketing, en fait la compréhension de ce que nous sommes en train de vivre, parce que les bibliothécaires, les diortotès, pour prendre le mot exact en grec, les bibliothécaires d'Alexandrie ont été parmi les premiers qui ont commencé à classer et à élaborer les réécritures qui ont donné naissance à la culture hellène. Ce texte est merveilleux, c'est merveilleux d'intelligence. Ce type est intelligent, tout simplement, donc il ne peut être qu'à recommander à la lecture. Il a fait un très 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 beau travail, qui est, si mes souvenirs sont bons, le résultat de sa thèse sur la cartographie, précisément. Bouquin introuvable, si vous tombez dessus, n'hésitez pas une seconde. Voilà pour la présentation générique. Alors, je commencerai donc sur histoire, technique et mémoire, puis ensuite inscrire ces dispositifs numériques dans l'histoire des outils, puis fonder le statut médiatique du dispositif de communication, fonder la dimension textuelle du dispositif numérique de communication. Rassurez-vous, je vais reprendre tous ces éléments, c'est des grandes têtes de chapitre. Envisager la spécificité des pratiques de l'étrure. Donc c'est ce terme que je réemploie, qui est un terme médiéval, qui me permet de pallier le manque que nous avons en français d'équivalent en anglais de littératie, qui maintenant est traduit après les travaux de Goudy. Ah, Jacques Goudy aussi, bien sûr, au passage. Et donc, en fait, passer après, situer ces médias dans la culture spécifique de la littératie à ce que Milad Douai appelle la numératie, la digital numératie, c'est-à-dire, en fait, les connaissances nécessaires à la numératie. Et puis, s'il nous reste du temps, ce dont je doute un peu pour être honnête, une entrée plus sémiologique sur les méthodes d'analyse des écrits d'écran et des écrits de réseau, avec la mise au, avec un certain nombre de focales sur un certain nombre de concepts clés, notamment la notion d'architecte, de signe passeur, mais on verra parce qu'on peut là aussi. Et puis je vous ai proposé, c'est parce que je les ai sous les yeux que vous avez derrière, un petit parcours spécifique pour l'INRP à la fin sur une des thèses que je suis en train de déployer en ce moment, qui est la question de la textualisation des pratiques et de la textualisation du monde contemporain à travers les médias informatisés. Et vous verrez qu'en fait il y a une pertinence à ce regard, après ce que nous verrons, qui peut être intéressante pour nous. Alors, dans un premier temps, donc, histoire, technique et mémoire, parce que tout ce que nous allons voir touche à la question fondamentale de la mémoire. Mémoire humaine, bien sûr, mais également mémoire des outils, mémoire des techniques et mémoire, si on dit mémoire collective, ça ira jusqu'à la bibliothèque, etc. Je ne développe pas cet aspect-là. Mais mon premier temps, en fait, consistera à constituer les objets techniques en une véritable histoire. Et ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Objets dont l'évolution relève, en fait, comme le rappelle Bernard Stiegler, autre auteur qui mérite d'être lu, même si parfois il est un peu, comment dire, torturé dans son écriture. Évoque Stiegler, qui ne dit pas que des bêtises, contrairement à ce que certains aimeraient faire passer, même des choses tout à fait pertinentes, et particulièrement importantes d'un point de vue politique notamment, sur la compréhension des phénomènes. Il se situe lui aussi dans le mouvement après le roi Gourand, Gilles, Simondon, etc. Donc on a une filiation qui est commune de ce point de vue-là. Et il parle de processus évolutif et de lois morphogénétiques au niveau des outils. C'est-à-dire qu'en fait, les outils ne sont pas des objets statiques et figés, ils ne tombent pas du ciel à une époque donnée, ce sont des productions humaines qui se situent dans le contexte économique, culturel, politique, et qui répondent à des nécessités aussi bien qu'à des lois d'élaboration. C'est-à-dire en fait, ils répondent à des nécessités sociales, historiques, politiques, mais également aux propres nécessités morphogénétiques de ce qui les constitue. Donc c'est quelque chose d'important à voir. On ne peut pas penser les médias informatisés, pour l'expliquer autrement, en dehors de l'histoire de l'informatique, en dehors de l'histoire de la cybernétique, etc. Donc en fait, c'est dans ces mouvements à long terme qu'il faut penser les objets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Il me semble qu'il faut prendre le recul de l'histoire longue pour les situer dans la nécessité qui est la leur. S'agissant des médias informatisés, c'est dans l'histoire longue de l'écriture, de ses supports, de ses techniques aussi bien de ses pratiques que nous avons à nous placer. Et il convient aussi de revenir sur la perspective tracée par cette histoire de ces outils d'écriture. John Hart, préfaçant Simondon a été réédité il n'y a pas longtemps, c'est du mode d'existence des objets techniques, et John Hart fait une postface dans laquelle il parle de la réalité humaine contenue dans la machine. Je prends cette citation parce que je la crois particulièrement intéressante pour nous. La notion de réalité humaine contenue dans la machine, pour le paradoxe qu'elle pose, en fait, pose quelque chose de fondamental pour nous. Et c'est sans doute ce que j'aimerais faire remonter dans notre périple à travers, un des points que j'aimerais faire remonter dans le périple que nous ferons à travers l'histoire des médias. L'une des thèses fondamentales de Laura Gourand est que l'histoire de l'outillage est intimement liée à celle de la mémoire et de ses pratiques. L'outil ayant pour fonction essentielle d'externaliser la mémoire individuelle. Mais il le fait afin de l'associer, enfin, pas nécessairement afin, parce qu'il n'y a pas nécessairement une intentionnalité, mais l'outil, en fait, est chargé de la mémoire à travers l'histoire de l'ensemble des pratiques des individus. Et donc, il est porteur d'une mémoire. Et ce qu'explique Laura Gourand, c'est que c'est une externalisation de la mémoire humaine vers un dispositif technique. Bon, alors là, vous avez déjà la thèse de fond est placée, elle est placée admirablement par Laura Gourand. L'apparition de l'outil permet, je cite Laura Gourand, une libération de la mémoire. Je prends cette citation parce qu'on va y revenir vers un autre moment et on verra que le phénomène, un des phénomènes importants de ces outils est effectivement à la fois une libération de la mémoire individuelle et donc une délégation au support médiatique de cette mémoire, et donc une sémiotisation, c'est-à-dire en fait une mise en visibilité, et vous verrez qu'au XIIe siècle, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui s'élabore de ce point de vue-là. Donc je vous lance des pistes pour ce qu'on verra par la suite. Donc en fait, une libération de la mémoire individuelle qui se constitue de ce fait en mémoire collective. Or, il faut que cette mémoire soit lisible. Il convient qu'elle soit lisible et qu'elle soit transmissible pour avoir quelque chose de pérennité. D'où le rôle des langages. Des langages et des pratiques sociales qui accompagnent, anticipent, prolongent la pratique de l'outil. Et là, en fait, c'est vos métiers, nos métiers, c'est les métiers d'enseignants, d'accompagnateurs, de bibliothécaires, c'est-à-dire en fait les métiers à la fois de l'enseignement et de la documentation, qu'elles soient techniques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient du geste, qu'elles soient de la pratique, etc. Donc on voit bien que là, on a des nécessités fondamentales. Je dis ça de manière extrêmement précise là, en ce moment, pour insister sur un point qui est un point à la fois politique, industriel et économique, qui est extraordinairement grave, me semble-t-il, dans le sens où nous sommes noyés sous une injonction industrielle qui consiste à diffuser des médias informatisés en ayant un point aveugle, un impensé redoutable, parce qu'il coûte de l'argent au collectif et à la société, qui est précisément celui-là de l'accompagnement. De l'accompagnement, de l'enseignement, de la documentation, de la culture, etc. Enfin, de la culture, c'est tout cela s'inscrivant dans la culture, pour être plus juste. Donc les modalités de représentation imaginaire sont constitutives de l'outil, c'est un autre point sur lequel j'aimerais insister, et de son usage au sens opératoire et symbolique du terme. Quand vous pensez aux médias informatisés, pensez à la publicité. Si nous n'avons plus d'accompagnement pédagogique autour d'un outil, puisque en fait c'est pas ce que je disais l'autre jour au colloque, puisque ce n'est pas le résultat de la Troisième République avec son injonction politique à la littératie républicaine qui domine maintenant, mais que c'est une injonction industrielle qui n'a que faire finalement de la formation, c'est pas son problème. Comment se fait l'appropriation de ces outils? Eh bien, elle passe par d'autres circuits. Ces circuits étant bien entendu ceux de la publicité, du marketing, ceux de l'accompagnement par les modes d'emploi, etc. Et vous voyez bien que ce sont deux registres radicalement distincts, hein, avec des enjeux qui sont des enjeux de société, voire probablement des enjeux anthropologiques à long terme. Chez l'homme, le problème de la mémoire opératoire, qui permet d'œuvrer, est dominé par celui des langages. Et quand on comprend ce phénomène-là, on comprend qu'on ne peut pas penser en dehors du langage et on ne peut pas œuvrer en dehors des représentations imaginaires de ce point de vue-là. Donc, ce qui permet la conservation et la transmission des savoirs et qui canalise précisément les comportements opératoires, c'est-à-dire en fait les activités que nous aurons. D'où un paradoxe qui est un paradoxe très intéressant pour nous. Je cite le roi Gouran à nouveau. Les possibilités de confrontation et de libération de l'individu permises par l'outil reposent sur une mémoire. C'est-à-dire, en fait, quand l'individu va être amené à utiliser un outil, il va avoir une libération de sa mémoire individuelle. Ceci repose, en fait, sur une mémoire virtuelle dont le contenu appartient à la société. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas user de ces outils en dehors de la mémoire collective élaborée par la dimension sociale. Vous n'arrivez pas vierge devant un outil, vous êtes chargé d'une mémoire que j'ai qualifiée d'infraordinaire, on n'aura pas le temps d'y revenir là pour l'instant, mais vous êtes chargé d'une histoire, d'une mémoire, d'un savoir que vous savez, que vous connaissez, mais dont vous n'avez pas nécessairement conscience, qui traverse les générations, qui traverse la circulation sociale, ce qui Yves Jeanneret appelle la trivialité, qui est une des thèses essentielles qu'il défend, donc la circulation des objets, des êtres culturels à travers la société, cela se fait à travers les langages, se fait et à travers les outils, les médias, etc. Et donc, vous n'utilisez pas un outil aussi simple qu'un marteau, aussi complexe qu'un média informatisé, en dehors de l'écosystème, mais c'est un peu ça, culturel dans lequel vous êtes. Parce que ces outils ne peuvent pas fonctionner en dehors de cette mémoire collective. Alors le paradoxe, c'est ça. C'est le roi Gouran dit, je crée un outil, donc je délègue ma mémoire individuelle à cet outil, je m'en lâche, et donc je peux passer à autre chose. Et en même temps, il dit, à juste titre, je ne peux utiliser du coup cet outil qu'en fonction de cette mémoire qui relève, elle, des langages, de l'imaginaire, de la culture, qui va me permettre d'accompagner ce geste opératoire. D'accord ? Donc en fait, vous avez une articulation intime entre les deux. Tout ça, je vous le situe au niveau de l'histoire longue, c'est-à-dire de la préhistoire, nos jours, des outils, parce que ça permet notamment la compréhension des outils que nous avons aujourd'hui. En d'autres termes, la libération mémorielle et opératoire permise par l'outil n'est rendue possible que par la mise en place d'une mémoire collective élaborée à travers les langages symboliques. Et l'outil n'existe donc qu'en tant que tel, et qu'en tant qu'il est compris dans la mémoire des connaissances sociales élaborées par les langages. Donc en fait, vous avez une articulation permanente entre les deux. Alors, dans un premier temps, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que les littéraires ont appelé le discours d'escorte. Bon, gardons ce terme, je ne vais pas entrer en polémique dessus, il est problématique, mais il a l'avantage d'être clair, les discours d'accompagnement. C'était en fait tous les discours qui vont accompagner. Je pense, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, un nouveau média arrive sur le marché, prenez l'iPhone, en ce moment on en est complètement bombardé, ou l'iPad, c'est à peu près aussi bien, vous êtes bombardé d'un discours d'accompagnement qui accompagne au sens propre du terme ces outils qui nous permettent d'y avoir accès. Et vous verrez, alors ce que disait par exemple Julia Bonacorsi l'autre jour dans le colloque, qui montre un certain nombre de postures, et ça vous l'avez, ce discours d'accompagnement, il est également produit par les grandes chaînes de production, le mainstream comme on dit, pour rester tout à fait francophone. Donc en fait, c'est cette industrie internationalisée de la culture, cet accompagnement est également présent, par exemple, dans les séries télévisuelles, dans la production cinématographique, etc., où vous avez des mises en présence d'acteurs qui utilisent ces objets et donc qui, par ce biais-là, pallient le manque politique d'éducation que nous avons ou d'enseignement que nous avons autour de ces objets. Lorsque les objets d'écriture, par exemple, ont fait à l'école l'objet d'un accompagnement d'ordre ou d'une dimension éducative, ici nous n'avons pas d'accompagnement de cet ordre-là sur les outils d'écriture-lecture. Donc en fait, c'est accompagné par d'autres dispositifs. Et vous voyez des glissements qui sont des glissements de nature extrêmement importants. J'insiste sur ce point et je passe au dispositif technique comme média parce qu'il me semble important de bien pointer cette idée selon laquelle ces dispositifs n'ont de possibilité d'usage, d'existence dans le corps social qu'à partir du moment où effectivement on en a une représentation imaginaire, de quelque nature qu'elle soit, peu importe, et on l'accompagne avec les langages, et que ces outils donc se situent à la croisée des langages, articulant et mettant en abîme la dimension opératoire et symbolique en fait de la mémoire et de nos activités. Donc ça, c'est important à bien articuler. Alors, dès lors, s'ils sont constitués en histoire, s'il est constitué en histoire, notre objet technique a maille à partir avec le langage, la mémoire, comme je viens de le dire. Et il convient alors de focaliser notre regard sur une caractéristique qui est importante, à savoir que ce sont des objets communicationnels. Ce sont des objets de communication. C'est donc leur dimension médiatique qui va nous intéresser maintenant. L'ensemble des dispositifs techniques dédiés aux télécommunications se distingue très... Bon, on va très cavalièrement. C'est pas tellement la dimension technique, sa complexité, qui fait la spécificité de ces objets, de ces outils. Certains outils sont pas beaucoup plus compliqués que certaines machines-outils. Un téléphone portable n'est pas techniquement plus compliqué qu'un aspirateur ou qu'une une machine à coudre. Sauf si elle est sur une table de dissection, effectivement. Mais bon, voilà, c'est un objet technique qui a sa complexité. Bien. Par contre, la distinction essentielle, c'est que c'est un objet dédié à la communication. Et là, en tant que tel, effectivement, cette spécificité va nous permettre de l'appréhender de manière radicalement distincte. C'est ce que Pierre Schaeffer, qui a été repris par Jacques Perriot, c'est un ouvrage qui se lit admirablement bien, Perriot, qui est la logique de... Je crois, oui, c'est la logique de l'usage des machines à communiquer, si mes souvenirs sont bons. Chez Odile Jacob, ça a dû paraître dans à la fin des années 70, 77, 70, je ne sais plus, enfin, quelque part par là. C'est un livre qui se lit sans aucune difficulté, qui est vraiment très très simple à lire et qui ne manque pas d'humour. En plus, Jacques Perriot est quelqu'un qui ne manque pas d'humour. Et donc, il reprend cette expression de Schaeffer de machine à communiquer que je trouve extrêmement pertinente pour les objets sur lesquels nous travaillons, qui en fait organise l'espace de la communication, qui la met en scène et la rendre possible. À ce titre, je pense que nous pouvons parler de technologie sociale. Donc, en fait, ça veut dire que ces technologies transforment le social par la force des choses. Parce que la bête humaine est une bête communicante, un homo communicans, comme disaient certains. Alors, juste un point pour me distinguer de certains courants, peut-être, mais pas uniquement, mais pour être précis là-dessus, dire que cette question ne peut pas être résolue par l'unique dimension de la transmission, qui est la grande thématique, le grand thème des médiologues, derrière Régis Debray. Bien sûr, et alors c'est la très très grande, le gros acquis des travaux qui ont été faits par les médiologues de ce point de vue-là, c'est insister sur la matérialité des dispositifs techniques et des dispositifs de communication. Soyons très très clairs là-dessus. Il n'y a de dispositif de communication dans l'espace social entre les êtres humains que matériel. Et le regard que j'ai de ce point de vue-là est profondément matérialiste. La théorie de l'énonciation éditoriale que j'évoquerai si on a un peu de temps est une théorie matérialiste de l'appréhension des objets dispositifs de communication, qu'il s'agisse d'une tablette sumérienne, comme je l'ai montré tout à l'heure, qu'on verra éventuellement, c'est-à-dire en fait qui tient dans le creux de la main et qui est faite en argile, ou qu'il s'agisse d'un écran, d'un micro portable, je n'ai que des objets d'ordre matériel pour transmettre la communication d'ordre écrite. Donc ça, c'est extrêmement important à placer. Donc, de ce point de vue-là, je suis en parfait accord avec ce qu'ils disent. Le distinguo, c'est que, sur la question de la transmission, c'est que ces médias sont effectivement destinés à la transmission, et réévaluer la transmission au sein de cette matérialité des dispositifs techniques est une entreprise qui est parfaitement salutaire de leur part. Mais en fait, les réduire à cette seule fonction est préjudiciable à leur juste compréhension, me semble-t-il. C'est qu'en fait, si on s'arrête à la question de la transmission, eh bien, il y a quelque chose qu'on ne comprendra pas. Alors, un petit point quand même qui est important de ce point de vue-là. Ce qui, d'un point de vue opératoire, distingue, par exemple, le pigeon voyageur. J'aime bien cet exemple, parce qu'il est un pigeon voyageur ou le postier, pour prendre une organisation sociotechnique assez complexe, parce que la poste est une organisation sociotechnique qui est complexe. Ce qui distingue donc le pigeon voyageur ou le postier du système de chape, par exemple. Système de chape, vous vous souvenez, j'adore. Sur une colline, on a juste un pilier, pouf, puis on a des messages qu'on va envoyer. C'est quelque chose de tout simple, mais qui est constitutif des médias sur lesquels nous travaillons par ailleurs. C'est le fait que l'un se contente de transmettre et que l'autre transforme. C'est-à-dire qu'il change de forme. Je vous rappelle que dans information, il y a la notion de forme qui est constitutive de ce que nous travaillons. C'est qu'en fait, le deuxième transforme également le message, c'est-à-dire qu'il en change la forme à travers le dispositif technique qui lui permet de faire accéder l'information à l'autre. C'est-à-dire que même au téléphone, aussi étonnant que ça puisse paraître, lorsque vous émettez un son oral en train de parler, ce son est transformé, il est changé de forme, et ce n'est pas la même chose qui arrive à l'oreille de votre auditeur. Donc, je sais bien que la télécommunication, comme l'a expliqué Yves de manière extrêmement précise dans un article assez ancien, mais qui est tout à fait pertinent de ce point de vue-là, la télécommunication est héritée de l'imaginaire de la télépathie, hein, c'est la même période, et nous sommes sur des imaginaires qui relèvent de... C'est-à-dire, en fait, le rêve, mais ça, on y reviendra à un moment ou à un autre, le rêve, en fait, de certains... de pas mal d'humains, finalement, est cette communication qui serait dénouée complètement, déliée complètement de l'ensemble des dispositifs techniques de communication, précisément. Ce qui vous donne, en fait, cette impensée radicale du texte, cette impensée radicale des dispositifs techniques que vous voyez dans la publicité en permanence. Pensez simplement, c'est bête, je n'ai pas pensé, non, je n'ai pas sous les yeux, mais vous avez certainement ça dans les yeux à un moment ou un autre, puisque vous les avez croisés dans le métro, dans la rue, dans les magazines, à la télé, n'importe où, ces publicités qui vous présentent un téléphone portable où la scène de derrière est en fait celle que vous voyez dans l'écran. Eh bien, ce que nous donne à voir cet imaginaire, c'est une négation du média, puisqu'on vous fait voir que le média vous donne la réalité. Il y a donc une négation du processus de transformation et donc du média lui-même. Or, ça, c'est une constante, en fait, de l'ensemble de cet imaginaire, cette transformation imaginaire. C'est un processus qui est assez constant dans l'ensemble des discours qui évoquent la communication en général. Ça va de la typographie, par exemple. Je vous renvoie à un article, ça, vous pourrez le trouver, il est en ligne. C'est un article que j'ai fait qui a été repris à plusieurs reprises, traduit et repris, copié, circule. C'est fait pour ça, remarquer. Hein. Même sous des signatures autres, ça a un côté assez rigolo. Et en fait, vous le trouverez en tout cas dans les cahiers Gutenberg. Vous tapez Gutenberg typographie sushi, vous récupérez ça sans problème. Où en fait, j'ai parlé de la typographie servante qui s'efface devant le texte. C'est-à-dire que idéologiquement, les typographes et les acteurs des métiers du livre ont élaboré tout un discours qui consiste à dire nous sommes au service du texte, nous n'existons pas. Et il y a un paradoxe extrêmement intéressant pour nous qui consiste à dire nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas présents, mais qu'en fait, en réalité, si vous regardez bien, la question de fond, elle est que le texte n'existe qu'à travers sa dimension visuelle et donc à travers l'œuvre des typographes. Donc là, vous avez un paradoxe radical qui montre qu'il y a un discours imaginaire et il y a une réalité concrète, physique, matérielle, sociale, intellectuelle, etc., etc., et qui est en fait le propre de l'idéologie, du regard que nous portons sur ces objets. Bon, je ne développe pas ça parce que c'est toute une thèse en soi et ça mériterait d'être pris tranquillement. Simplement, je vous l'indique comme un point focal intéressant aussi. Donc, quand je vous dis que ces objets, en fait, ont la particularité de transformer, de changer la forme de l'information, ils le font à travers le dispositif technique et un langage singulier. Partant, ils en changent le sens. Et ça, je crois que c'est aussi un point sur lequel il faut et nous devons nous arrêter. Autrement dit, vous n'avez jamais, et ça je renvoie à cette très très belle expression de Jacques Roubaud, servons-nous des poètes, ils ont beaucoup plus de choses à nous dire que certains techniciens qui parfois sont d'une pauvreté insigne. Jacques Roubaud, travaillant sur les troubadours, explique cette notion de sens formel en disant que dans les joutes des troubadours, il y a un rapport direct de la forme du poème utilisé dans le cadre de la joute, la forme elle-même ayant un sens déjà particulier. Autrement dit, la forme utilisée est déjà les linguistes parleraient de suprasegmental, mais c'est en fait de cet ordre-là. C'est-à-dire que la forme indique un type de sens, déjà, en amont même de ce qui va être énoncé au sein même de la forme du poème. Et donc là, bon, donc cette notion de sens formel que j'adore, que j'ai reprise, moi j'ai piqué ça à Roubaud avec un bonheur non fin, et que j'ai réadapté en fait d'un point de vue sémiotique et communicationnel dans l'introduction que j'ai faite pour le traité des vertus démocratiques de Queneau chez Gallimard, que je vous conseille, c'est un très très beau texte, où j'ai expliqué, employant le terme de Roubaud, j'ai expliqué qu'on pouvait aller au-delà de ce qu'il disait sur le sens formel du poème pour aller jusque dans la matérialité même de l'écriture de l'auteur. Donc en fait, c'est le sens formel aussi repose sur une concrétude de l'expression écrite et de son élaboration éditoriale, c'est-à-dire sociale. Donc c'est toute cette chaîne d'élaboration du processus d'écriture qui est redevable du sens formel. C'est pour ça que j'aime beaucoup sa formule et que je lui renvoie à chaque fois parce que redonnons à Roubaud ce qui appartient à Roubaud. Donc en fait, pour revenir à notre question de transmission et de transformation, les médias informatisés, n'agissent pas autrement qu'ils prennent en charge tout à la fois la dimension informationnelle et communicationnelle des messages. Donc ça veut dire qu'ils les transforment. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Vous n'avez pas une pureté, entre guillemets, d'un message. Ceci est une vision essentialiste radicalement fausse, si je puis me permettre. Il n'y a pas une pureté d'un message, d'un discours, d'un texte, fut-il poétique, peu importe. Le texte que vous avez à lire est tributaire dans toutes les conditions du support, de la situation, du contexte et donc des dispositifs techniques qui vous le donnent à lire en tant que tel. Et ça, c'est un point qui est un point extrêmement important, me semble-t-il. Si donc les outils sont aussi, et par définition, des technologies sociales, les médias présentent néanmoins la particularité d'être dédiés au langage et de fonctionner grâce et à travers les langages. Constituer donc ces outils en médias et rompre avec l'idée selon laquelle ils ne seraient qu'une variante de l'objet technique est un premier temps de l'analyse tout à fait indispensable pour nous. Le second temps donc consiste à voir en quoi ils reposent sur les langages. Et là, ça va être quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour nous, une fois qu'on a vu cette histoire longue, et de noter pour ce faire que l'organisation de l'espace de communication qu'ils mettent en scène passe par l'écriture, ce que j'ai appelé l'écrit d'écran. Et il passe également par le texte, ce qu'on verra au niveau du texte de réseau. L'ordinateur peut être alors considéré comme une machine textuelle. Elle n'est pas nécessairement sur la table de dissection comme l'autre, mais bon. C'est donc une machine textuelle qui relève tout à la fois du technique, du sémiotique, c'est-à-dire des langages en général, et de la pratique sociale, c'est-à-dire ce qu'on a coutume d'appeler désormais les usages, quoique il y ait toute une littérature sur ces termes. L'analyse doit donc être plurielle, c'est ça qui en fait la difficulté, mais également le très grand intérêt. L'analyse doit être plurielle et portée sur la dimension logicielle, c'est-à-dire technique, scripturale, c'est-à-dire en fait d'écriture, donc c'est en tant que sémiologue qu'on va agir là, et du média, lequel repose sur une mise en forme de l'échange social. Et j'insiste sur le terme de mise en forme. Dimension communicationnelle, pardon, qui ne peut elle-même être décrite qu'à partir de formes possibles de l'usage ethnologique, sociologique, psychologique, etc. etc. Je ne reviens pas là-dessus, ce serait trop long pour l'instant. Alors, s'agissant de la mémoire, puisque c'est un des points d'entrée essentiels, si on regarde ces objets selon ce point de vue, il nous fera distinguer des niveaux radicalement hétérogènes, et on verra que ça crée à l'articulation un certain nombre de questions, enfin que ça pose un certain nombre de questions. La mémoire technique, la mémoire sémiotique, c'est-à-dire la mémoire des formes, la circulation des formes sociales, parce que sur un écran internet, vous n'avez pas de forme, contrairement à ce qu'on entend en permanence, vous n'avez que des formes visuelles, et ces formes sont chargées d'histoire, de pratique. Autrement dit, même les historiens du livre les plus pertinents de ce point de vue-là n'ont encore pas passer le cap, c'était drôle l'échange qu'on avait la semaine dernière, notamment avec Chartier et d'autres, sur cette question-là. Et ça n'est pas parce que le livre est instituant et un instituant de forme extrêmement profonde dans notre culture, au point où nous sommes des hommes de livres, hein, nous sommes des êtres de livres, culturellement, anthropologiquement même. Donc ça, on est d'accord avec lui là-dessus, enfin je suis d'accord avec lui là-dessus, mais en même temps, ça n'est pas parce que nous avons changé de support médiatique que ces formes qui sont instituantes ne sont pas en circulation, précisément, et que ces outils n'ont pas de forme. Ils ne sont pas informels, ils ne sont constitués que de matière et de forme, hein, à un premier niveau. Donc ça, c'est extrêmement important. Même si ces formes sont en migration, même si ces formes sont en transformation, donc en changement de forme précisément, elles existent et on ne peut pas avoir de processus d'écriture-lecture en dehors d'elles. C'est elles qui nous donnent les cadres instituants dans lesquels... Ce sont les premiers éléments des cadres de possibilité, comme disait Foucault, les conditions de possibilité nous sont données par ces formes. Les conditions de possibilité de l'écriture sur les écrans nous sont données par les formes sociales qui nous sont données à voir sur ces écrans. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte, parce que, bon, alors on a travaillé ces derniers temps sur ce qu'on a appelé les petites formes. J'aime bien ce terme, il est assez rigolo. Et puis, il est très suggestif, parce qu'effectivement, sur les écrans et sur les sites Internet, on a une prolifération de petites formes qui donnent à voir un certain nombre de choses. Bon, je mets ça de côté, parce que je reviens la prochaine fois. Je parlerai de ça. C'est un autre point qui mériterait d'être déployé, mais on n'a pas le temps, là. Alors, donc, s'agissant en fait de la mémoire, notre regard doit en permanence, face aux écrans notamment, s'adapter avec une très grande habileté. C'est-à-dire que quand on nous a dit et quand on continue à dire les écrans, ouais, d'accord, c'est un appauvrissement redoutable de la pratique d'écriture-lecture, c'est radicalement l'inverse. On a rarement vu dans l'espace de lecture, dans cet espace que moi j'appelle un unimédia et non pas un multimédia, mais un unimédia, puisque je n'ai qu'un écran devant moi, en l'occurrence, et que vous n'avez qu'un écran devant vous lorsque vous travaillez, eh bien, on a rarement vu la convocation d'une plus grande richesse, d'une telle richesse de formes de toute nature distincte sur le même espace. Et ça, du coup, ça oblige le lecteur, l'usager, à être extrêmement délié dans sa compréhension de ce qu'il a à lire. C'est-à-dire qu'on demande de plus en plus à notre lecteur, le dispositif technique tel qu'il est pratiqué impose au lecteur à avoir une culture que Milad Doyi, donc je vous ai pas évoqué son bouquin, mais qui est sorti l'année dernière, La Grande Conversion Numérique, c'est un très bon bouquin. Celui qui va sortir, d'ailleurs, s'annonce, de ceux que j'en connais déjà, vraiment un très très beau livre aussi. Donc, La Grande Conversion Numérique, et celui qui va sortir, c'est Pour un humanisme numérique, au Seuil, dans la belle collection de Maurice Hollander. C'est un très beau travail. Donc, ce que Milad appelle la culture numérique montre assez bien, me semble-t-il, que nous sommes confrontés à des situations de lettrure, pour reprendre ce très beau terme médiéval, qui sont d'une complexité insigne. C'était assez étonnant, quand même. Et donc là, je crois qu'il faut qu'on revoie notre manière de penser les choses, et non pas jeter sous prétexte que l'écran déplace un certain nombre de valeurs dans lesquelles nous sommes inscrits de façon pluriséculaire dans notre culture, dans notre manière d'être, y compris dans notre manière d'être. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure avec des guillemets, c'est-à-dire que nous sommes des individus du livre, certes, mais pas uniquement. Et là, nous sommes confrontés à un autre support qui est en train qui nous permet d'élaborer une culture qui est une culture de la forme complexe, assez étonnante. Alors, une fois qu'on est arrivé à cette compréhension de l'objet, et que l'on considère la machine comme une machine textuelle, le second temps de l'externalisation de la mémoire humaine, c'est son inscription dans l'espace de l'écriture. C'est-à-dire, en fait, l'articulation entre... en fait, c'est considérer la machine comme une machine textuelle, et puis après, voir comment la notion de texte joue avec ce dispositif technique. Si on considère l'écrit d'écran d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire en fait de ce qu'il est d'un point de vue matériel dans un premier temps, contrairement au livre, il peut être schématiquement scindé en trois espaces distincts. Je fais à la hache, mais ça permet d'y voir un peu clair et de prendre un recul sur un certain nombre de choses. Je dirais l'espace de la machine mémoire, dans un premier temps. On mettra tout ce qu'on voudra dedans. C'est la question de la machine mémoire. Je mets un gros paquet là. Celui de l'écran et du clavier, et celui de l'imprimante. L'imprimante et tout ce qu'on mettra au dehors. L'expression machine mémoire, en fait, couvre ici l'ensemble du matériel informatique, des outils logiciels qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur. Bien. Et dans cette machine, il y a une matière mémoire. Je n'entre pas dans les détails, de quelque nature qu'elle soit. Pour l'instant, ça peut être développé, bien sûr, mais ce n'est pas l'objet. Sur laquelle, on enregistre des données sous forme d'impulsion électronique. Alors, à partir du moment où je dis ça, d'emblée, vous savez qu'on pourra tirer à vue sur tous ceux qui nous diront qu'il s'agit d'immatérialité. Parce que je sache, les physiciens nous ont montré de manière assez claire que, précisément, eux, partant de ces fameux atomes et de ces fameux électrons, qu'il s'agissait bien d'une définition de la matière, d'un des éléments de définition de la matière, qu'on me dise qu'il ne s'agit pas de dispositif matériel, là, je ne sais plus ce que ça veut dire, du coup. Et sans ces impulsions électroniques, je n'ai pas de fonctionnement de ce dispositif technique. Donc, le premier temps, ce premier niveau, cette première articulation fondamentale, c'est une articulation physique, matérielle, très claire et très nette. Alors, juste à titre d'anecdote, je sais, l'anecdote est violente, et je l'ai répété une ou deux fois, mais ça fait rien. C'était un colloque où Yves était d'ailleurs. Vous savez bien que les chercheurs américains du Nord, bien sûr, chacun sait ça, sont beaucoup plus alertes que nous. Gens du vieux monde, ou gens de peu de culture dans le sud, etc. Donc, on avait une collègue, éminente collègue américaine, états-unienne plus exactement, qui, il y a quelque temps à Dublin, lors d'un colloque international, nous faisait tout un discours sur l'immatérialité. Et nous, on était là en train de bouillir sur nos chaises, en disant « ça commence à suffire, cette histoire-là, ça va faire... Bon, » C'était quand même en train de monter un petit peu. Et bien, fort heureusement, la technique avait du bon, elle était de notre côté, ça ne marchait pas. Et c'est des moments dont il faut savoir se réjouir. Évidemment, ça ne marchait pas, parce qu'à chaque fois qu'on fait une projection, un machin, etc., compliqué, qu'on veut faire le malin et le kéké derrière un dispositif technique qui cache en fait l'aporie totale de réflexion, eh bien, il y a un moment où il y a un trou. Et bien, on est tombé dans ce trou-là, et on est intervenu en disant... C'est bien votre histoire, mais vous parlez d'immatérialité. Et là, on a tiré la prise. Et il y a eu rideau total. C'est-à-dire qu'au fait, devant l'explosion tout sens d'images, de machins, de trucs, etc., pseudo-virtuels, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et on a, en tirant la prise seulement, et ah, on s'excuse, c'était vraiment... on pensait que c'était immatériel, donc bon, pas besoin d'électricité, finalement, pour l'immatériel. Je crois que la démonstration a été un peu violente, mais elle a été claire. Ça a l'avantage de la clarté. Bon, on n'est plus très copains. Mais au moins, le discours a pu commencer sur des questions théoriques sérieuses, solides, bon, ou en fait, passant par l'expérience, des fois, vous savez, avec certains élèves ou certains étudiants, des fois, on passe par des objets où ça ne passe pas au niveau théorique. Bon, on va repasser par un autre biais. Et ça marche bien. L'expression. Bon, je me souviens de ce moment comme un moment amusant. Bon, après, on a été un peu s'excuser quand même, qu'est-ce qu'il nous reste un minimum de sociabilité. Mais en tout cas, la démonstration avait l'avantage de la clarté. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur ce point que ces données matérielles ont aussi une autre caractéristique. Elles sont illisibles pour l'homme. Elles sont illisibles pour l'homme. Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'être humain, pouvoir lire ces données. Il vous faut des dispositifs techniques qui, par couches successives, vont vous permettre, alors je mets ces deux temps extrêmes, entre l'écran sur lequel vous avez lecture possible, qui est une lecture culturelle, une lecture sociale, une lecture humaine, et puis la couche infra profonde dont je parlais à l'instant. Alors, je suis dans la métaphore, on s'entend bien, hein, parce que pourquoi profonde, pourquoi infra, bon, voilà. J'utilise le vocabulaire que j'ai, pauvre littéraire, comme je disais. Ça me pense à Bachelard quand je dis ça, en fait, hein, parce que là, il se régalerait. C'est une analyse qui est superbe à faire de ce point de vue-là. Tiens, voilà un beau sujet d'analyse. Ça me donne une belle idée, ça. Travailler avec Bachelard sur les métaphores qu'on utilise pour... Là, je pense qu'on a une très, très belle matière. Et donc, vous voyez ce premier niveau où je ne peux pas avoir accès à ces données. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme est confronté à cette impossibilité d'accès direct à sa mémoire. C'est fondamental. Nous sommes devant un mouvement qui ne relève pas du simple culturel, c'est un mouvement anthropologique. C'est un mouvement d'une profondeur inouïe dont nous n'avons encore pas jaugé les conséquences réelles. Oh, on n'est pas mal, enfin, pas complètement idiot, on a vu certaines choses, mais je crois qu'il est extrêmement difficile de savoir ce que ça donnera dans les années, dizaines d'années, siècles qui vont... vraiment, enfin je ne suis pas devin, hein, mais là on est vraiment devant un mouvement extrêmement... Alors, je prends à titre de comparaison toute simple, une des images que vous avez, que vous voyez en filigrane derrière, qui est celle de la tablette numérique. Enfin, c'est joli, tiens, ça comme là. Je vais vous faire un condensé fabuleux. C'est un beau lapsus, j'adore ça, tiens. De la tablette sumérienne qui tient dans ma main, qui a 5000 ans, et que je saurais pouvoir lire si je savais lire le sumérien, ce que mon petit camarade Glasner, qui était à mes côtés l'autre jour, sait faire. Tiens, je suis en train de casser le dispositif technique. Le débrancher. J'ai débranché le dispositif technique. Bon. En fait, vous n'en avez pas besoin. Bon, vous n'en avez pas vraiment besoin. Ah, pardon. Ben, je viens de le débrancher. Hein. Si, j'ai mis le pied dessus. Ah bon? Je pense vraiment qu'il est débranché. Ah là là, il est débranché. Bon, je m'excuse, je fais une disparition momentanée de l'image. Hein.
Il y a effectivement une crise là-bas qui a été sautée.
Dans quel état il
affiche? Ah, voilà. Eh, quand je vous parlais de technique, quand même, c'est pas rien. Hein. Si c'est pas matériel, ces petits objets. Et là, ça va? Bon, c'est super. J'ai mis le pied dessus. Alors qu'il y a un problème d'ergonomie, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, du coup. Je suis parti sous la table, j'ai perdu. Ah oui, la tablette sumérienne. Très, très belle. Et alors, ma tablette, je la tiens dans les mains. Je peux la tenir dans les mains, parce que certaines sont grandes. Et surtout, et c'est ça qui m'intéresse, 5000 ans après, je peux la lire. Je n'ai pas besoin d'autres dispositifs techniques, si ce n'est précisément ce que je disais tout à l'heure, le contexte de la culture, donc la littératie, le savoir-lire. Je n'ai besoin que de ça. Donc mon apprentissage, la lecture, et mon petit camarade Jean-Jacques Glasner, l'autre jour, me lit ça. Moi, je trouve ça assez fascinant et émouvant, en fait, quand il y a 5000 ans d'histoires qui ressurgissent comme ça. Oui, c'est beau, c'est un beau mouvement, je trouve. C'est émouvant, effectivement. Quand je suis devant cette tablette, je sais que je peux avoir accès à la mémoire de l'homme. C'est magique, ce truc. C'est quand même étonnant. C'est la première technologie de l'intellect. Enfin, c'est la première, la plus profonde technologie de l'intellect que l'homme ait créée. L'histoire de l'écriture, elle est là. Hein. Les dispositifs techniques ne sont que des artefacts qui continuent cette histoire. Hein. C'est pas une révolution, Internet. Ce terme est extraordinairement pernicieux. Nous nous inscrivons dans l'histoire de l'écriture. Nous sommes toujours dans l'histoire de l'écriture. Hein. Et là, effectivement, pour le coup, comme technologie de l'intellect, c'est d'une puissance inouïe. Quoi. C'est étonnant. Eh bien, regardez, cette histoire, je peux y avoir accès encore aujourd'hui. Et si je regarde mon écran, ma tablette numérique, pour le coup, et si je n'ai pas d'électricité, c'est terminé. Si mon disque dur, si je n'ai que le disque dur ou le support numérique, ma petite clé USB, je ne peux rien faire. Alors, autre anecdote. Dans les années 60, La NASA, qui a quand même besoin d'un certain type d'informations, notamment météo, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous êtes bien là ? Je reviens quand vous voulez. Hein. Avec un peu de neige, c'est quand même pas mal. Donc, là, dans les années 60, en fait, la NASA a enregistré toutes ces données qui sont des données liées à la météo sur des bandes magnétiques. Oh, c'est trop bien ça. Moi je reste là. Je veux bien faire court là, sans problème. En plus, hein, ouais, en plus techniquement ça marche. Bon, c'est quand même pas désagréable. Oui, alors je reviens à la NASA. Dans les années 60. Eh oui, en fait, c'est la dualité de l'écran. J'en profite parce que c'est quand même pas inintéressant, ça. C'est une des fonctions fondamentales du média. Le média, c'est penser à la métaphore du voile et de l'écran. Le voile cache autant qu'il révèle. C'est une des spécificités fondamentales de toute technologie de l'intellect que de cacher en même temps que de révéler. C'est une des spécificités aussi des supports qui permettent, enfin, qui donnent possibilité d'expression au niveau des technologies de l'intellect. La métaphore du voile, il y a un très beau livre. Alors, il y a sa dimension mystique, mais vous avez le droit aussi de ne pas adhérer, peu importe. Par contre, les idées qui sont de fond sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. C'est de Clévenot, qui est paru, je ne sais plus où, sur la dialectique du voile, notamment dans la culture islamique. Et c'est très, très intéressant ce qu'il dit de ce point de vue-là. Il y a ce qu'il montre bien, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la culture chrétienne, hein, je sais pas, ou dans d'autres. Pour avoir accès au Saint des Saints, il y a un voile, il révèle autant qu'il cache. Et c'est sa fonction primordiale. Hein. Donc c'est cette dualité, c'est cette dualité, la preuve. Tiens. Bon, allez, on va passer. Je reviens à la NASA. C'est bien de passer du voile à la NASA. Donc la NASA, dans les années 60, enregistre toutes ces données qui sont pour elle absolument indispensables, qui sont les données liées à la météo. Quand vous envoyez en l'air, en tout bien, tout honneur, une fusée, il vous faut un certain nombre de données pour pas que la petite chose retombe, pour rester dans le même schéma métaphorique. Bêtement, qui plus est, parce que donc, voilà, avant d'exploser en route, mais je suis sur une métaphore scientifique, tu vois, et il vous faut des données météo. Non, je ne vais pas tisser le film métaphorique. Et en fait, c'est donc pour eux, c'est crucial. Ce sont des informations qui sont d'ordre fondamental. Bien. Au bout de quelques années, toutes ces informations ont disparu. Pour une raison toute simple. Et cette raison est d'une trivialité monstrueuse, c'est la croyance en la pérennité du support. Or, les bandes magnétiques n'ont pas tenu le choc. Eh bien, voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, 5000 ans d'histoire sur une tablette d'argile, à peine quelques dizaines d'années sur une bande magnétique, l'une est conservée, l'autre a radicalement disparu. Nous ne connaissons pas la pérennité des supports techniques sur lesquelles la mémoire contemporaine est en train de s'inscrire. Nous ne savons pas. On a pensé à un premier temps, les CD-ROM, etc. Regardez, totalement obsolète à cause des dispositifs techniques. Et on est en permanence dans cette... Et regardez, j'ai un petit clin d'œil amusé par rapport au colloque de la semaine dernière sur le livre. Eh bien, je reste dans la pluralité de ce point de vue-là, qui continue à être pérenne, eh bien, c'est le papier, qui a été traité de manière intelligente par nos collègues bibliothécaires, qui n'a pas de pH acide, et c'est sur celui-là qu'on a l'information la plus pérenne. Et non pas avec des encres, qui n'ont aucune pérennité, mais des encres d'empreintes. Donc, en fait, une technique, c'est tout bête ce que je suis en train de vous dire, mais c'est encore ça qui dure le plus longtemps. Bien. On trouvera peut-être d'autres solutions. Hein. Mais voyez, en fait, on est sur des interrogations qui sont des interrogations qui sont essentielles pour nous, puisqu'il s'agit de notre mémoire collective et en fait de la survie des cultures. Mais je pense, oui, effectivement, que ça relève de cet espace-là. Bien. On a le temps de travailler sur la machine textuelle jusqu'à quelle heure ? Je vois 8h15 là-bas, donc il me reste du temps. monsieur. Vous me dites, hein, quand il faut tirer la sonnette. Très bien. Oui, puis on arrêtera en route, et puis c'est pas un souci. Alors, le point important, donc, c'est que, confronté à cette illisibilité de notre mémoire, nous avons une injonction, qui est une injonction technique, de transformation, c'est-à-dire de métamorphose, de transformation de cette couche technique, purement technique, en objet sémiotechnique, c'est-à-dire sémiotique et technique. C'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est-à-dire en fait qu'il soit à la fois de concrétude matérielle et technique, mais également qui commence à apparaître au niveau des langages sociaux sur lesquels nous allons avoir prise, donc que nous pourrons appréhender au sens propre du terme. Et donc faire des données électroniques invisibles, une écriture lisible à l'écran et lisible par l'homme. C'est pas rien, hein, c'est une transformation qui est quand même une transformation complexe. On notera alors que la matière mémoire est un support fait pour conserver la trace de l'écriture. Or, cette trace est, pour l'homme, illisible. À l'écran, en revanche, si l'écrit est lisible, il n'a pas de mémoire. Paradoxe. Ce que je disais tout à l'heure de manière un peu violente, je débranche mon ordinateur, je n'ai plus la trace de l'image du texte que j'avais sous les yeux quelques secondes auparavant. Cet écrit est un écrit nomade. Il disparaît une fois l'ordinateur éteint. Ainsi scindé entre deux espaces, écran et mémoire, l'écriture est désormais ambivalente, invisible et lisible, fugace et durable. Et une tension qui la caractérise. Le support et l'écriture ne vieillissent plus ensemble. En fait. Et là, il y a quelque chose. C'est quelque chose de phénoménologiquement très intéressant. Alors, du coup, je n'ai pas parlé de l'imprimante. Elle se distingue. Alors, dans les grands. Entendez-moi bien. Je prends ces trois grands termes à titre générique et métaphorique pour ouvrir un champ. Ils ne sont que des indices de. Quand je parle de mémoire, quand je parle d'écran et quand je parle d'imprimante, je parle de tout ce qu'il y a. Ça va entraîner derrière. Cette imprimante qui se distingue de l'écran pour n'être pas sa copie, contrairement. Alors, dans les premiers mouvements de l'écrit d'écran, les informaticiens, dans la très grande ingénuité qu'ils ont parfois, ça les rend naïfs, ou plutôt leur naïveté nous les rend sympathiques sur certains aspects. Il ne faut pas que je dise ça trop fort, parce qu'il y en a qui sont quand même passablement intéressants. C'est la croyance selon laquelle, en fait, on pouvait faire la même chose. Et donc, on a construit des dispositifs qu'on a appelés les fameux WYSIWYG, c'est-à-dire « what you see is what you get », ce qui est radicalement faux. C'est à nouveau un impensé radical de la transformation médiatique. C'est un impensé, en fait, des dispositifs de médias. Parce que quand ce que j'ai sur l'écran n'est pas ce que j'ai sur l'imprimante, ça n'est pas la même chose. Et alors, l'image la plus simple, parce que j'ai un papier sous les yeux. Non, je n'ai quand même pas déchiré une attestation. pensez simplement, quand vous écrivez au tableau 1 égale 1, pour le mathématicien c'est juste, pour le sémioticien c'est faux. Parce que quand vous avez ce 1 sur cette main et le 1 sur l'autre, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas le même objet. Donc il faut passer par un langage et une abstraction pour dire qu'effectivement, dans l'ordre de cette abstraction mathématique, c'est une équivalence. Mais dans l'ordre matériel, ça ne sont pas les mêmes objets. Mon écran n'est pas ce que j'ai sur mon imprimante. Et le WYSIWYG a été une des réponses assez étonnantes dans cet imaginaire, dans cette croyance au fait que ce que je vois, c'est ce que je vais avoir. Non, ça n'est pas la même chose. Et donc vous êtes sur quelque chose d'extrêmement important là aussi. Si l'écrit d'imprimante présente la particularité de renouer avec le lien défectible que l'écriture entretient depuis toujours avec son support, il n'en va pas du tout de même avec l'écran. Jusqu'à présent, quelles que soient ses caractéristiques, l'écriture se donnait à lire dans l'intime relation qu'elle entretenait avec son support, ce qu'on a vu avec la tablette numérique. Si on détruit le support, on détruit l'objet d'écriture. On détruisait dans un même mouvement le message écrit et celui qu'il supportait. Reprenez les mots, hein, ils sont, de ce point de vue-là, extrêmement précis. Hein. On parle de support. Et effectivement, cette écriture était supportée par ce support. Puis les faces d'une même pièce, écriture et support, étaient indissociables. Eh bien, il en va désormais autrement, car l'écran éteint ne signifie pas la perte de l'écrit. Et c'est cet indéniable intérêt qui présente... Alors, indéniable intérêt parce que si mon écran est éteint, je peux, avec la mémoire, repasser sur un autre écran, repasser sur un autre dispositif, repasser sous d'autres formats, etc. Et ça, le document numérique, du coup, a une richesse que n'avait pas le support technique écrit jusqu'à présent. Parce que je peux non pas le dématérialiser, on s'entend bien, hein, mais changer de support matériel pour arriver à une autre expression visuelle qui me permettra d'y avoir accès. C'est radicalement différent. Ce n'est donc pas une dématérialisation, mais c'est une transformation des supports matériels. Et alors là, effectivement, la technique informatique est extrêmement intéressante parce qu'elle permet, et c'est son côté positif, elle permet effectivement cette migration à travers différents supports d'un qui ne sera pas le même écrit, mais qui sera un écrit formaté en fonction d'un contexte distinct. De la même manière que deux ouvrages d'une édition distincte d'un même texte ne sont pas les mêmes écrits. Quand je mets mon texte en Pléiade et que je l'ai dans une revue parue pendant la Résistance avec un certain nombre d'informations que je n'ai plus dans mon texte Pléiade, par exemple, ce que j'ai montré de manière très claire par rapport à l'histoire des exercices de style de Queneau dans la Pléiade, où vous avez un écrasement des données historiques dans le module, dans la forme instituante, valorisante par ailleurs, mais instituante de la Pléiade, il y a évidemment des informations que j'ai transformées. Et moi, en tant qu'acteur, en tant qu'éditeur, hein, c'est-à-dire éditeur de texte, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai été mené à accompagner ce texte sous une autre forme, une transformation, qui est une forme intellectuelle pour dire au lecteur, attention lecteur, ce texte ne sort pas de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il est produit à telle époque, il est dans tel contexte, il est chargé de tel et tel et tel élément. Tu peux aller chercher, lecteur, les éléments dont tu as besoin, etc. Qui est le rôle, là, effectivement, de l'accompagnateur du texte. Et donc, vous voyez bien que cette transformation, eh bien, c'est, je crois, une des grandes leçons aussi des médias informatisés, de nous obliger à repenser de façon analogue les autres supports sur lesquels nous travaillions jusqu'à présent avec une espèce de tranquillité absolue disant ouais ouais c'est pareil ça bouge pas machin etc. Non, pas du tout. Il y a une injonction indirecte qui est donnée par la technologie qui est intéressante de ce point de vue là c'est le côté extrêmement positif je trouve au moins de ce point de vue là c'est qu'elle nous oblige à repenser les anciennes pratiques, les usages que nous avons, etc. Et là, de ce point de vue-là, ça nous met très clairement en visibilité ce phénomène de transformation et donc de mutation de l'information. Le texte que j'ai dans la Pléiade n'est pas le texte que j'ai dans la revue Message en 1944. Parce que le texte qui est dans la revue Message en 1944 est accompagné d'une autre série d'auteurs. Et donc, je n'ai plus une unicité auctoriale, mais j'ai une polyphonie auctoriale. Et quand je vois dans Message le regroupement de tous ces auteurs qui sont en lutte contre l'occupant nazi, je me dis, là, il y a un acte politique qui est extrêmement intéressant, que dans la Pléiade, je n'ai plus. Donc, vous voyez, ce parcours-là, eh bien, c'est uniquement à partir d'une transformation de support. Or, mon texte n'est pas le même. J'insiste beaucoup là-dessus, le texte n'est pas le même. Alors on est tombé entièrement d'accord avec Michel Melot un jour, où tous les deux, lors d'un colloque, on a été confrontés à cette question-là, en disant, non, un même, entre guillemets, support n'est pas le même support d'une part, ce que je vous disais tout à l'heure sur le 1 et le 1. Et donc, le texte n'existe qu'en fonction du support sur lequel il est. Et le texte n'a d'existence aux yeux du lecteur. Parce que ça veut dire que quand je dis ça, ça veut dire que dans le dispositif de lecture-écriture de l'étrure, je tiens compte, de la présence de cet acteur indispensable qu'est le lecteur, tout simplement. Et je ne fais pas abstraction matérialiste, essentialiste, ce que vous voudrez. J'essaye de prendre en compte cette complexité de la situation de lecture en disant mon objet, certes, la culture dans laquelle il s'inscrit, certes, mais également le moment de sa, entre guillemets, consommation, qui est un moment situé en histoire, situé en culture, etc. Et donc c'est cette complexité-là que je convoque indirectement, bien entendu. Alors, l'indéniable intérêt du support informatique qui permet de passer sur des formes distinctes présente une très très lourde contrepartie, hein, comme on l'a dit rapidement. Pour la première fois de son histoire, l'homme ne peut plus lire un texte sans recourir à une machine. Il a besoin d'une machine et d'un dispositif technique dédié. J'insiste aussi là-dessus, pourquoi ? Parce que regardez, notre histoire de la culture numérique qui est en train de naître, hein, dans laquelle nous sommes, où nous sommes pleinement acteurs, hein, soyons clairs, regardez la vitesse à laquelle, pour des raisons économiques, politiques, enfin économiques avant tout et industrielles, regardez la vitesse à laquelle les dispositifs deviennent obsolètes. Et l'obsolescence de l'ensemble de ces dispositifs est hallucinante. Si en fait, ça oblige à une politique que les bibliothécaires traitent en permanence et qui leur pose des problèmes énormes de fond, notamment, parce que ça coûte cher, c'est tout simplement très très cher, vous êtes obligé de passer d'un dispositif, d'un support, d'un dispositif à l'autre, pour des raisons en fait purement économiques. Dominique Lecourt parlait d'une injonction technologique, mais je crois que c'est très clair dans sa formulation. C'est donc, j'insiste là-dessus, l'accès direct à son écriture et au-delà, à sa mémoire, à la mémoire de l'homme dont il est question. Au-delà, ben, vous comprenez bien que les enjeux d'ordre économique, politique, culturel d'une telle transformation, c'est la dimension anthropologique de l'écriture qui est en cause. Voilà. Alors, trois conditions indispensables pour avoir accès à ces dispositifs. Sur les supports d'écriture qui ont en fait traversé l'histoire, le lecteur peut visuellement avoir accès au texte sans autre forme de procès. En revanche, la lecture sur un écran d'ordinateur est tributaire de deux conditions nécessaires et indispensables. Il faut d'une part qu'il y ait le dispositif technique que je viens d'évoquer, qui permette de transformer les données électroniques illisibles enregistrées sur la matière mémoire en un texte lisible à l'écran. Ça, c'est clair, je crois. Autrement dit, qu'il y ait un dispositif technique susceptible de transformer, de changer de forme. Je pense que c'est assez clair. Et qui nous permet de changer de l'énergie en langage social. C'est étonnant comme transformation. C'est vraiment une machine alchimique, au sens traditionnel du terme. Elle permet de transformer de l'énergie en langage socialisé. C'est quand même assez... Ils sont bons, quand même. Ils sont en train de réinventer l'alchimie. Ils sont très, très forts, quand même. D'autre part, il faut une source. Alors, voilà. Condition essentielle. Il faut une source d'énergie pour alimenter le dispositif. Sans électricité, tous ces dispositifs-là existent, mais ne peuvent pas fonctionner. Mais je pense on a intérêt à s'arrêter 2 minutes sur ces questions parce que essayez de penser ce que ça veut dire. Je reviens à ma tablette sumérienne. Alors bien sûr, je ne peux pas la penser en dehors. C'est idiot, mais c'est une métaphore, ça permet d'envisager certaines choses. C'est heuristique uniquement. C'est faux historiquement, mais ça ne fait rien, c'est heuristique. Je peux lire ma tablette sumérienne 5000 ans après. Parfait, très bien. Mon dispositif technique contemporain, je ne peux pas le lire si je ne pense pas derrière une industrie électrique, des centrales nucléaires, par exemple. Par exemple. Des éoliennes, en tout cas des sources d'énergie, et regardez ce que coûte et ce que représente l'investissement d'un site comme Google quantité de milliers de mégawatts qui sont transformés quotidiennement en de la, entre guillemets, information. Vous avez derrière une industrie lourde, Et ça n'est pas pensable autrement. Ça veut dire que nous sommes dans un système économique qui doit assurer, de ce point de vue-là, une circulation d'énergie pour que nous puissions avoir accès à ces informations. Donc, les objets, au sens où l'entendait, les objets techniques auxquels nous avons affaire, au sens où l'entendait Simondon, sont hypertéliques, c'est-à-dire qu'ils sont tellement liés au système qu'ils ne sont plus utilisables en dehors de ce système. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à bien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tous les dispositifs... Imaginez le bonheur un peu deux minutes pour... Imaginez la panne totale d'électricité, là, maintenant. Voyez le bazar que ça crée. Vous n'avez plus aucune circulation d'informations. Et bien là, ça nous oblige à repenser les choses autrement et à voir comment ces dispositifs sont complètement tributaires d'un système industriel, économique, etc. D'accord ? Et donc, d'une visée politique, non pas à court terme, pour les élections dans deux ans, mais une visée politique à très long terme, bien entendu, ce que nos politiques ont petite tendance à légèrement oublier. Alors, il nous faut une source d'énergie pour alimenter le dispositif. En d'autres termes, sans énergie, sans dispositif technique approprié, l'écriture informatique n'existe pas, ou au mieux, peut-être considérée comme invisible. Je peux très bien me trimballer avec ma clé USB dans ma poche, hein. Je suis content, j'ai des quantités et des quantités et des quantités d'informations. Si je ne peux pas y avoir accès, quid ? Donc, nous sommes confrontés à ce phénomène d'hypertélisation. J'aime bien ce mot, je le trouve très joli. Et puis il y a plein de H, de trucs, c'est parfait pour le Scrabble. Et donc, en fait, nous sommes dans une dépendance absolue dans l'écosystème dans lequel nous sommes, nous sommes dans une dépendance absolue de l'écriture et de la lecture partant de la mémoire qu'il constitue. Nous ne pouvons pas y avoir accès autrement. Alors, reste une troisième condition, et c'est si on a encore quelques minutes. Ouais, faut tirer la sonnette, hein, parce que sinon... Si. La troisième condition, qui est la condition... importante. Je vais dire deux mots dessus, puis on en reparlera un autre jour éventuellement, qui est la troisième condition indispensable au fonctionnement du dispositif technique, qui est le texte. Pour avoir accès aux données électroniques évoquées à l'instant, nous utilisons des outils d'ordre textuel. C'est un paradoxe que j'aime bien. Qui sont construits à la croisée de l'électronique, de l'informatique, des usages et du textuel. Et c'est sans doute là un des paradoxes les plus inattendus des médias informatisés. Pour avoir accès à mon écriture, là, non, pas rentrer dans les détails. Pour avoir accès à mon écriture sur un écran, je suis dans un premier temps obligé de considérer l'objet support technique en tant que tel. Moi, je vois bien, c'est de la matière, du plastique. Je sais pas, non, c'est plus du verre, ça. C'est, bon, il n'y a plus de verre, ce serait trop lourd. Bon, enfin, ce sont des matières hybrides. Comment ? Le nom exact m'échappe, mais ça reviendra. Composite, voilà. Et donc, toute une série de matières. Tout ça, objet inerte, d'accord ? Dans un deuxième temps, il me faut donc une source d'énergie. Mais ça ne suffira pas. Il me faut une série de logiciels, un système pour lancer le système. C'est-à-dire que la machine fonctionne en tant que machine. C'est-à-dire que déjà, ce n'est pas rien. Nous avons des outils qui fonctionnent sans ça. Pensez le marteau, hein, qui est quand même une technologie qui a une certaine pérennité, qui a fait ses preuves, il me semble. Hein. Depuis la préhistoire où on se tape sur la tête avec, ça fait quand même un moment que ça existe, cette petite chose, et qui a une variabilité extraordinaire. Allez dans un musée du compagnonnage, par exemple, et vous verrez la variabilité extraordinaire de la forme marteau. Il y a des anthropologues qui ont travaillé là-dessus de manière tout à fait intelligente et qui montrent effectivement un certain nombre de rapports. Des marteaux avec des manches d'une très grande finesse, une toute petite masse avec une précision. Les autres sont des monstres, jusqu'au marteau pilon, etc. Bien. Vous voyez que, bon, pourquoi ? Pour avoir, ce qu'explique Laura Gourand, tout simplement, une transformation d'une force physique qui est un prolongement des sens humains. C'est-à-dire, ma petite main, elle n'est pas assez fine ou lourde ou solide, etc. Donc, je prends un outil pour prolonger un de mes sens. Bien. Ça, Je l'utilise depuis la préhistoire à maintenant sans aucune difficulté. Là, par contre, je suis confronté à un objet qui me demande un autre type de savoir, un autre type de technique, et puis qui me demande une source d'énergie et une technique qui me permet d'avoir accès à la technique et surtout d'enclencher cette technique. Donc voilà, on est dans on n'est pas dans la machine-outil, on est dans l'outil qui permet de faire fonctionner l'outil. Donc c'est déjà autre chose, d'accord ? Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, j'ai lancé mon logiciel. Donc, j'ai mon écran et je suis dans le premier stade. Bah, tu sais, je vais vous le faire voir quand même parce que j'ai l'image sous les yeux. C'est idiot de ne pas en profiter. C'est les quatre temps. Je ne vais pas passer dans le système diaporama. Ça suffit, vous les voyez bien. Oh, quoique, ça serait un peu feignant de ne pas le faire. Hein. Voilà. Est-ce que c'est lisible ? Pas du tout. Bon. Faites un tout petit peu preuve d'imagination, ça va le faire très bien. À gauche, le A, c'est le dispositif technique lancé avec la source d'énergie, d'accord ? Il s'allume, très bien, fond bleuté, machin, très bien. Deuxième temps, B, celui-là, le système se lance. Donc, nous avons déjà deux niveaux d'articulation, deux écrans. Troisième temps, je vais lancer le logiciel dédié à mon occupation, quelle qu'elle soit. Hein. J'ai choisi une occupation de lecture-écriture, allez savoir pourquoi, on ne se refait pas complètement. Donc je lance un logiciel de traitement de texte, dit traitement, j'adore hein, ce terme. Ce que je disais tout à l'heure, la réinterrogation de l'ensemble du vocabulaire qui accompagne, élabore et permet de comprendre et de se créer un imaginaire autour des dispositifs sur lesquels nous travaillons. On parle de traitement de texte. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important à interroger. Et donc, ce troisième temps, le C, je lance, c'est-à-dire ce que nous avons appelé avec Yves, des architextes, c'est-à-dire des textes, de arché en grec, à l'origine et au commandement, qui permettent de lancer, qui sont à l'origine de, et qui commandent, la production éventuelle du texte au sein, sur l'espace médiatique que nous avons. Et sans ces trois premiers temps, je ne peux rien faire. Et dernier temps, une fois que j'ai lancé le logiciel, je vais ouvrir la phase document qui va être celle où je vais entrer en lettrure, en lecture-écriture. Sans ces temps-là, je ne peux rien faire. Autrement dit, mon dispositif technique, avec la puissance qu'il a aussi un talon d'Achille extrêmement redoutable. Si l'un de ces éléments-là n'est pas présent, je ne peux ni lire, ni écrire. Je ne sais ni lire, ni écrire. C'est bête, quand même. Alors, je suis obligé de relancer un autre processus. C'est un véritable parcours initiatique, cette affaire. Je réagirai en fonction des questions, parce que si on n'a pas le temps pour discuter, c'est dommage. Voilà. Alors, juste, un dernier temps pour clore de manière à peu près, j'allais dire, élégante, le début des démonstrations qui est l'ébauche d'un début, d'un commencement. Ce que j'étais en train de dire, c'est que la technique est considérée comme une technique d'écriture, du logiciel considéré comme une pratique d'écriture, du code informatique considéré comme une pratique d'écriture, jusqu'à la pratique d'écriture sur l'écran et le mouvement dialectique, c'est de considérer l'écriture comme une technique. Et là, vous avez un ensemble qui commence à s'élaborer. D'accord ? Bon, je m'arrête là pour l'instant.